Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show,
Jean-Louis Tour.
Il est quasiment 20h, le RMC Football Show avec Coach Courbis. On est là jusqu'à 21h sur RMC. Ce sera le cas tout au long de la semaine, jusqu'à la semaine prochaine, l'arrivée de la nouveauté. Vous en avez entendu une partie donc. Jérôme Roten, Roten sans flamme. Ce sera tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h à 20h sur RMC. Jérôme Roten accompagné de la Dream Team pour débattre. Les historiques évidemment de la Dream Team d'RMC seront là. Avec en plus certaines surprises, certaines nouveautés. Donc soyez là lundi prochain 18h donc pour Roten sans flamme. On va s'enflammer nous tout de suite avec le champion de France, même si il enflamme pas grand monde le champion de France en ce début de saison. Jean Baumel nous rejoint, notre correspondant dans le Nord. Salut Djibo.
Salut Jean-Louis, salut coach, bonsoir à toutes et à tous.
Oui, quelques difficultés pour Lille en ce début de saison. Djibo, avant de parler de ce qui peut se passer dans les jours, les semaines à venir, déjà l'info concernant le gardien. Ça a bougé, ça y est, le club tiendrait le remplaçant de Mike Maignan.
Bah oui, ce serait le numéro 2 de l'Atlético Madrid, Ivo Girbić. Donc c'est un croate, voilà, c'est bien parti, c'est pas encore officialisé pour l'instant, mais en tout cas c'était l'un des gros dossiers parce qu'en voilà, Mike Maignan manque énormément forcément vu les statistiques de la saison dernière et puis l'importance qu'il avait au niveau défensif. Léo Jardim, hein, le gardien brésilien, a pris 7 buts. Alors c'est facile de lui tomber dessus, hein, parce que franchement, notamment contre Nice, bon, il y en a un, il est fautif, mais pour le reste, bon, il n'a pas été aidé par sa défense. Mais voilà, c'était l'un des dossiers prioritaires. Ça en passe de bien se passer, en tout cas.
Bon, c'est important de régler ce dossier-là, coach, hein. Même si remplacer Maignan, c'est compliqué, oui, pour l'instant, ça n'avait pas été fait.
Mais ça le sera même par le remplaçant de.
De Black.
Parce que c'est sûr que c'est difficile. Personnellement, je le connais pas du tout. Faudrait que Fred nous en parle. Mais tu peux effectivement être remplacé en Doblak tout en étant très très bon, parce que pour prendre la place de Doblak, c'est pas simple du tout.
Fred pourra pas forcément nous en parler puisqu'il a un match de Coupe du Roi à son actif. Sinon rien.
Mais moi je vais vous rappeler quelque chose. J'en parlais avec coach. Rappelez-vous quelqu'un qu'on ne connaissait pas très bien, qui était la doublure de Michael Landreau, qui s'appelait
Vincent Villana, mais Vincent Iniama, ouais.
Voilà. Bon bah on le connaissait pas et je peux vous dire.
Ah non, mais il peut y avoir des doublures excellentes, il y a pas de souci.
Et je sais que Mickaël, lui, le voyait tous les jours à l'entraînement et il savait qu'il avait quelqu'un derrière qui poussait et que voilà, hein, c'est l'un des exemples que j'ai retenu. Et c'est vrai que le gardien, on connaît pas vraiment, on verra bien. En tout cas déjà, faut que ça se concrétise définitivement.
Quel âge? 25 ans.
Ouais. Ah bah c'est lui.
25 ans, 1m95.
Ouais, voilà. c'est un beau profil, hein. Maintenant, faudra que ça se fasse vite, qu'il soit vite intégré. Il y a la Ligue des Champions qui va vite arriver pour Lille. Voilà, tout va s'accélérer. Et on sait aussi que Lille est aussi en recherche d'un profil un peu comme Luis Araujo, qui est parti à Atlanta, donc en MLS, un joueur voilà de côté, droite ou gauche, plutôt droit, mais voilà. Et puis au milieu de terrain, a priori, Checa ne devrait pas partir parce que avec la blessure de Sanchez. Pendant 6 semaines, hein, arthroscopie au niveau du genou, donc 6 semaines minimum. On sait déjà assez fragile, hein, international portugais. Donc on sait que l'association Checa André, c'est mieux qu'avec Gazidze quand même. Hein.
C'est quand même fatigant et pénible comme joueur, Sanchez.
Mais surtout en plus, c'est que tu pensais le vendre d'ici le 31 août. Là, c'est bon. Tu peux toujours vendre un joueur qui a été opéré, mais
ouais,
c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué.
C'est compliqué pour l'utiliser. C'est compliqué de son irrégularité.
Quand il est bien, c'est toujours la même chose. Ouais, quand il est bien, il résout quelques problèmes.
Quand tu le vois pendant l'Euro, tu te dis mais quel joueur.
Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà pour les départs. Pour les autres arrivées, t'en as parlé?
Oui.
Au départ, forcément.
Donc, alors les départs, pour ça,
j'étais parti en détail dans les fiches de Gerbic là. Donc voilà.
Non, t'inquiète pas, y a pas de souci. Et donc y a Ikoné, voilà, qui d'année en année, on annonce son départ, mais pour l'instant, y a rien de fait. Il y a beaucoup de joueurs libres. Très jeune, parce que Lille était quand même avec 55 joueurs sous contrat, des joueurs pas très connus, qui ont été prêtés à Moucron. Bon, ils ont revendu quand même un paquet et c'est pas terminé, mais il faut vraiment réduire la masse salariale parce qu'il faut rappeler que Lille a beau être champion de France. Heureusement d'ailleurs, parce qu'ils ont gagné un peu plus d'argent, j'allais dire de sous, c'est pareil, mais que prévu, plus avec des champions. Donc ils ont moins de pression financière que ce qui était prévu au mois de janvier, parce qu'il y avait ce pari de finir au moins dans les trois premiers, voire les deux, pour être sûr d'être en phase de poule de Ligue des Champions. Voilà, un peu moins de pression, mais Lille aimerait quand même encore vendre un peu plus si c'est possible d'ici le 31 août et faire quelques petits ajustements, parce que voilà, il y a des joueurs, on va en parler, mais qui ne sont pas tout à fait revenu la tête à l'endroit depuis le titre de champion de France.
Ouais, tu penses à qui? Derrière,
il y a tout simplement Celik, qui a pas fait non plus un superbe euro avec la Turquie. Alors la Turquie globalement n'a pas réussi son euro. Il y a Ziche, même Burak Yılmaz, voilà, ça a été.
Et Fonte.
José Fonte, oui, qui aussi est revenu, qui a pas tout fait, toute la préparation. Mais le plus décevant, en tout cas, notamment par rapport au match de Nice, la catastrophe de Nice, parce qu'on va y revenir. Bon, il y a des joueurs qui, voilà, Jossin Govanek a dit le titre c'est fini, il faut passer à autre chose. Il faut vraiment, c'est ce qu'on disait à l'intérieur du club.
Il pourrait se l'appliquer aussi, Govanek. La saison dernière elle est finie, le titre il est fini. Peut-être changer des choses tactiquement, enfin, tu vois.
Oui, non, mais il va falloir, en tout cas, c'est une grosse claque pour tout le monde, je pense. On l'a vu, il y avait le côté émotionnel, les retrouvailles avec Galtier, les accolades avec les joueurs, Hexagol présenté. Alors c'est vrai que généralement tu le fais ça en fin de saison, tu le fais pas en début. Donc je pense qu'ils avaient un peu la tête à l'envers, ils ont démarré le match d'une manière catastrophique, au bout de 5 minutes ça fait 2-0, et face à une équipe de Nice avec en plus un entraîneur qui connaît bien l'effectif en face, bon, il a réussi son coup, Christophe Galtier, ça c'est certain. Voilà, maintenant Jocelyn Gourvenec doit imposer les choses. D'après ce que je sais, les entraînements se sont très bien passés. Il y a eu une prise de conscience de pas mal de joueurs. On verra contre Saint-Etienne ce week-end. Ça sera hyper important de voir vraiment si Lille, c'était un accident samedi dernier à domicile contre le GC Nice. Parce que les choses vont s'accélérer. Parce qu'il y aura la Ligue des Champions. Il y aura le derby contre Lens mi-septembre. Et on sait que pour Jocelyn Gourvenec, ça, c'est pas, je vous apprends rien, mais on va le rappeler quand même, c'est que remplacer Christophe Galtier, c'est une sacrée mission. Il fera jamais mieux, pas aussi bien. Il faut qu'il fasse, voilà, une saison pour espérer finir au moins européen. On lui demande pas d'être en Ligue des Champions, mais en Europa League.
Et pour y parvenir, coach, il faut absolument recruter, selon toi, ou finalement, c'est quand même plus ou moins l'effectif des champions de France. Donc, il y a de la qualité et tu dois quand même être capable de faire une bonne saison.
Mais ils ont super formé aussi, Faut, ouais. Je pense qu'il faut le mettre aussi dans la balance.
Coach.
Bah écoute, j'attends le mercato, évidemment, les supporters de Lille aussi, mais je reste persuadé que voir encore un ou deux départs de joueurs importants, ça me paraîtrait quand même difficile après à remplacer. Et voir un petit peu les joueurs qui pourraient arriver d'ici le 31, je pense qu'il en faut au moins deux. Après, on va le dire et le redire toutes les semaines, ça sera très compliqué de remplacer Maignan, ça sera très compliqué de remplacer Galtier, donc ça sera très compliqué de remplacer l'effectif de la saison dernière et cette saison qui est une saison extraordinaire où tu te permets, entre guillemets, d'être champion de France dans un championnat où il y a le Paris Saint-Germain. Donc tout ça, ça va être compliqué. Et évidemment qu'il faut impérativement, rapidement, retrouver la victoire, parce que là, c'est sûr qu'entre le 3-3 de la première journée et le 4-0 à domicile contre l'ancien entraîneur, il faut réparer ça rapidement.
Alors, faut pas oublier, mais on va peut-être le mettre de côté. Mais il y a aussi le trophée des champions gagné par Lille, hein, quand même, face au PSG.
Oui, il a raison, faut pas l'oublier.
Voilà, avec une équipe de Lille, justement, qui avait retrouvé ses vertus défensives. Voilà, c'est quand même une équipe qui était plutôt à l'aise. Face à une équipe du PSG, faut être clair aussi, bien diminué, puisqu'il n'y avait pas toutes les stars.
Alexis nous rejoint au 32-16, supporter de Lille. Salut Alexis.
Salut à tous.
Salut Alexis.
Bon, t'attends des arrivées là, avec impatience?
Bah, c'était surtout le gardien qui posait un petit peu problème, hein, même si, comme l'a dit Gibo, c'était vraiment pas le seul responsable, hein, sur les premiers matchs. C'était vraiment la défense de l'année dernière qui était à la rue, hein, on va dire. On comprend pas trop le changement d'une année sur l'autre. Après oui, c'est surtout il faudra surtout remplacer les probables départs, quoi. Parce que en termes de quantité de joueurs,
tu crois pas qu'il y a des besoins même sans les départs?
Alors moi je pense qu'il manque une doublure à Yilmaz, parce que quand l'année dernière il a été blessé, on jouait avec David tout seul et c'était assez compliqué de...
Ouais, mais Weah était pas mal, je trouve, moi.
Ouais, mais Weah, pour moi, c'est la doublure de David en deuxième attaquant. Mmh. Mais je veux dire, en vrai neuf, à la Yilmaz, on n'a pas un deuxième, on n'a pas un Ajor ou un Bayou qui serait là dans le starting block, quoi.
Ouais, c'est vrai, mais il faut le trouver, parce que franchement, il va pas laisser. Non, surtout, c'est qu'il risque de pas jouer beaucoup, parce que si Yilmaz se blesse pas, Yilmaz ne laissera jamais sa place. Christophe Galtier était très fort là-dessus, c'est qu'il arrive à lui faire comprendre. La relation était forte, de temps en temps, de le faire sortir plus tôt, de pas le faire démarrer tous les matchs. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des choses pour Jocelyn Gourvennec à gérer.
Après, Bourak, à son âge, il va peut-être pas faire la Ligue des Champions, la Coupe, enfin la Coupe d'ailleurs, la Ligue 1. Je pense qu'il y aura quand même de la place pour un deuxième attaquant. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas la priorité, mais pour moi, c'est en termes de quantité, c'est peut-être là où on est le moins fourni. Et ouais, après, c'est surtout... j'étais au match contre Nice, et c'est vrai que Celic, je sais pas s'il a la tête encore à l'Euro, ou bien s'il a tout simplement la tête dans un autre club, mais...
Ah, il faisait partie des possibles départs, et est-ce que mentalement, il se voyait déjà ailleurs à l'intersaison? Après, voilà, faut pas oublier que l'année dernière, il a pas ça n'a pas été le meilleur Lillois, hein. Il a une saison un peu difficile.
C'est plutôt Renildo qui a été une agréable surprise, qui a vraiment élevé son niveau de jeu avec Botman et Fonté, mais Celic est resté fidèle à lui-même, et enfin, il était bon, et il a alterné le bon et le moins bon, mais c'est vrai que là, quand on est moins bien derrière, lui, il se voit encore plus, quoi.
Et dis-moi, tactiquement, tu vois comment les choses? Est-ce que tu penses que Gourvennec doit continuer avec le 4-4-2 qui a emmené Lille champion de France l'année dernière, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut pas couper le cordon, changer un peu, impulser quelque chose, plutôt que de se mettre dans les chaussons de Galtier?
Bah justement, comme Yilmaz a pas de doublure, pour moi, il faudrait qu'on joue en 4-2-3 et installer Yazici qui serait à son poste, quoi. C'est-à-dire en numéro 10.
Ouais.
Parce que Yazici...
Pas une grande trouvaille au milieu, là, hein, Yazici au milieu.
Avec André, alors, non, c'est pas...
Il est arrivé, ils l'ont mis sur le côté, sauf que, il a pas d'agressivité et pas une grande vitesse. Après, ils l'ont mis en deuxième attaquant. Bon, ça allait à peu près, mais en termes de pressing et d'agressivité, c'est pareil, il manque quelque chose. Et là, ils l'ont mis en 8, et on a pris l'eau face à Nice, quoi.
Donc, après, s'il est bon à aucun poste, c'est qu'il y a même un souci global, non?
Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que, oui.
Non, mais t'as raison sur le constat, hein, c'est ce qu'on a vu.
Le problème, c'est que on joue en 4-4-2 avec un 10 à l'ancienne, un peu à la Riquelme, quoi. Et sauf que là, le changement tactique qu'il faudrait opérer, c'est passer en 4-2-3, hein, pour moi, avec un vrai 10 derrière l'attaquant.
Un rôle qu'il connaît à occuper il y a quelques temps.
Il avait été très bon d'ailleurs contre le Milan AC, où il avait fait un triplé.
Ah, oui, ce qu'il faut aussi impérativement trouver, c'est le copain d'André à côté de lui.
C'est Sheka, quand il n'est pas blessé.
Ou
Onana. Mais qui est jeune, hein, de 19 ans, qui est capitaine des espoirs belges.
Mais ils peuvent être aussi 3 pour
mais
deux,
oui,
pour
mais je pense qu'il aura sa chance. Et ils l'ont quand même acheté pas loin de 9 millions d'euros à Hambourg, qui évolue en deuxième division allemande.
Et Renato n'est pas encore parti.
Oui, bien sûr.
Mais il faudra qu'il revienne. Enfin, le problème, voilà, c'est ce que disait coach, hein, super déjà, joueur, mais c'est un casse-tête.
L'hôpital.
Ouais.
Vrai casse-tête. Non, mais offensivement, je pense qu'ils ont ce qu'il faut au milieu de terrain.
Et derrière, là, t'as donc Fonte, Botman,
Diallo
qui est toujours là.
Ouais, Diallo. Ouais, alors qu'il avait été pas mal d'ailleurs au poste de latéral droit contre Metz. Est-ce qu'il a joué pas mal de fois à ce poste-là, parce que Jérémy Pied, malheureusement, est souvent blessé, hein, qui est normalement la doublure de Zeki Celik. Diallo qui va alterner certainement entre le poste de défenseur central et peut-être de latéral droit.
Bon, ben voilà. C'est bizarre, si, ouais. C'est vrai que si Fonte et Botman ne sont pas là, on n'a qu'un seul défenseur qui est à la fois remplaçant de Celic et à la fois remplaçant de Fonte ou Botman. Quoi.
Alors, tu peux, ça a déjà été fait aussi, Sheka, tu peux mettre Sheka. Et le jeune Nias, mais bon là, on ouais, là, part un petit peu à l'aventure. Hein.
Là, c'est-à-dire que t'es quand même beaucoup moins armé en quantité que l'année dernière, sachant que là tu joues la Ligue des Champions. Ouais, on a l'impression de l'oublier la clé en Ligue des Champions, mais.
Alors, je pense qu'on a plutôt baissé en qualité qu'en quantité. Ben, c'est surtout le poste de Maignan, et puis après si la défense est moins réussite ou moins concentrée, c'est plutôt la qualité. En quantité, comme l'a dit Gibo, on a énormément de joueurs qui sont revenus de près. Angel Gomez, on n'en a pas parlé. Il y a Niassé et puis Onana qu'on a recruté. Non, honnêtement, en quantité, on est exactement comme l'année dernière. Mais en qualité, il y avait Galtier qui faisait la différence, peut-être aussi au niveau mental. Quoi.
Ouais. Bon, bah, Alexis, bonne saison.
Bah merci, et je fais une petite dédicace à mon pote Florian qui est supporter valencinois, mais bon, je l'aime quand même.
Ah, il a récupéré Debuchy que j'ai vu ce matin.
Hein. Ah oui,
Debuchy, ouais,
c'est vrai que t'as discuté avec Debuchy, alors
je l'aurais bien aimé en doublure
de Celic.
De Celic, ouais.
Ah, et franchement, je pense que si ça avait été possible, je pense que Mathieu aurait.
Et Jérémy Pied, c'est lui là.
Pardon,
il est parti, Jérémy?
Non, il lui reste un an. Il lui reste un an.
Ah voilà, bah c'est.
Il est jamais là aussi. Enfin, c'est toujours c'est Diallo qui est installé en remplaçant Celic et tout. Donc je pense que c'est plutôt un animateur du vestiaire qu'un joueur sur lequel le coach compte, malheureusement.
Ouais, joueur important dans le vestiaire, effectivement. Hein, quand on est allé à Lille au lendemain du titre, c'est ce qui ressortait. Alexis, donc bonne saison, merci à toi et rappelle quand tu veux au 32-16.
Super. Bonne fin d'émission et à bientôt.
Merci, salut Alexis.
Salut Alexis.
Djibo, merci à toi.
Merci à vous et je vous dis à très vite.
Faudrait qu'on parle de Lens aussi un moment quand même. Hein.
Ah bah avec plaisir.
On va trouver du temps dans la semaine. On te rappelle, salut Djibo.
Bonne soirée à tous.
À bientôt. Dans une seconde, coach, on va tout te dire sur Emerson Palmieri, qui donc devrait arriver à Lyon. Julien Laurence va nous rejoindre, lui qui l'a vu à Chelsea, qui l'a vu avoir des difficultés à s'imposer. Et puis l'Allemagne dans un instant avec Paulo Breitner et donc cette super coupe entre Dortmund et le Bayern. À tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
20h15 sur RMC, le RMC Football Show avec Coach Courbis jusqu'à 21h avec dans les dernières minutes le reste des infos mercato, le mercato européen, mais aussi le Bayern qui continue sur la lancée de la saison dernière avec cette victoire face à Dortmund, donc 3-1 lors de la Super Coupe d'Allemagne. Paulo Breitner viendra nous dire ce qu'il faut retenir de cette rencontre, mais le mercato, on continue. Edouard Génou donner l'info tout à l'heure, ça brûle entre Lyon et Emerson Palmieri, l'arrière-gauche italien, italo-brésilien, que Julien Laurence, qui est avec nous, notre correspondant en Angleterre, a vu jouer à Chelsea. Salut Julien.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
Alors tu l'as vu jouer et tu l'as vu surtout ne pas réussir à s'imposer.
Je l'ai vu jouer, mais pas beaucoup, hein. Parce que la saison dernière, il a pas joué au championnat. Il a joué que 15 matchs la saison précédente. Donc, très peu de matchs au compteur. Au moins, c'est bien. Il sera pas trop fatigué comme ça pour les Lyonnais. Mais plus sérieusement, c'est surtout un latéral gauche, on va dire, parce qu'il aime plutôt jouer piston gauche dans une défense à 5 plutôt que dans une défense à 4. Et je vous expliquerai après pourquoi. Mais c'est surtout parfait pour Peter Bosch, pour la philosophie de Peter Bosch. Jouer vers l'avant, jouer pour l'attaque, avoir des latéraux qui jouent très, très haut parce que Emerson, il est bien meilleur avec le ballon en phase offensive que sans ballon en phase défensive. C'est pour ça que lui aussi préfère, je sais pas si Lyon jouera beaucoup ou souvent avec une défense à 5, mais en tout cas lui préfère ça parce que moins il y a à défendre, mieux c'est pour lui, parce que c'est vrai qu'il est très à l'aise avec le ballon. C'est un très très beau joueur de ballon, un pied gauche fantastique. En revanche, défensivement et dans le placement, c'est un petit peu plus compliqué parfois, mais pour ce qu'on attend Peter Bosch, je pense que c'est parfait.
Bon, alors ça c'est très bien, hein, pour
c'est-à-dire ce qu'on attend Peter Bosch. Dans une défense à 4, Peter Bosch, il veut un arrière latéral offensif.
Je pense que c'est ça que tu voulais dire, Julien. Ouais.
C'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, tu vas pas chercher Emerson Palmieri pour autre chose. Hein.
Non, mais sinon, ils se sont trompés, mais tu vas peut-être le chercher aussi pour pouvoir jouer de temps en temps avec trois arrières centraux, parce que là, tu as Dubois moyen d'un côté et Emerson moyen de l'autre. Et les deux arrières centraux, il va falloir que ce soit deux monstres. Hein.
C'est vrai, ou alors tes milieux défensifs qui compensent et qui fassent le travail, effectivement. Mais
aussi.
C'est vrai que c'est. Alors, je sais pas après pour la Ligue 1, défensivement, comment ça va se passer pour lui. Sur certains matchs, je pense qu'il y aura pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est beaucoup plus attiré par l'attaque, par aller vers l'avant, par une position assez haute sur le terrain qu'une position basse et un joueur qui aime beaucoup défendre.
Donc pour le profil, c'est plutôt donc un joueur très offensif. D'ailleurs, on l'a vu avec l'Italie. Hein, il remplace Spinazzola pendant l'Euro. J'ai un doute là. Non, il y a pas une défense à 3.
Ouais. Non, c'était pas une défense à 3. C'était une défense à 4 pour eux, mais c'est vrai qu'il jouait. Il avait une position très.
Les deux vieux arrière centre.
C'est ça. Comment t'expliques qu'il se soit pas imposé à Chelsea?
C'est une bonne question. Je pense qu'il a été un petit peu victime, entre guillemets, si on peut dire, des changements d'entraîneur, parce que Mauricio Sarri le voulait. Ensuite, il est resté qu'une saison. Après, c'est vrai que ça a été plus compliqué avec les entraîneurs qu'on suivait, que ce soit Lampard ou Tuchel. Ils sont allés chercher Ben Chilwell à 50 millions de livres aussi. Et je pense que défensivement, pour la Première Ligue en tout cas, par rapport au rythme. Des matchs notamment, c'était plus compliqué pour lui défensivement, c'est sûr. Après, Marcos Alonso a connu un petit peu les mêmes soucis aussi, parce que pour les mêmes raisons exactement, que défensivement c'était compliqué pour lui aussi parfois. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il a pas pu s'imposer vraiment comme il l'aurait voulu. Ils ont quand même dépensé, je crois, 20 millions d'euros à l'époque pour aller le chercher à la Roma, où il avait fait une très bonne saison d'ailleurs. Et c'est vrai que lui aussi, Sarri va le chercher parce qu'il correspondait parfaitement à Sarri Ball, à la façon dont Sarri voulait que ses latéraux jouent. Et encore une fois, c'était plus porté vers l'avant qu'autre chose. Donc c'est pour ça. Si ça dépend ce que tu attends de lui. Si tu attends de lui que ce soit un défenseur parfait, qui ne fasse jamais d'erreur, qui soit jamais battu en un contre un, qui soit toujours bien placé défensivement, je te parle. Pour moi, c'est pas vraiment le bon choix. En revanche, avec le ballon, il sera très bon. Il offrira beaucoup de solutions offensives. Il est très bon dans ses centres. Il est très bon dans ses choix avec le ballon, notamment dans la partie de terrain adverse. Là, en revanche, oui, ça pour moi, c'est une très bonne arrivée.
Alors, Julien, reste avec nous. Lionel, t'écoute attentivement. Lionel est supporter de Lyon. Il a fait le 32-16. Salut, Lionel.
Salut, messieurs.
Salut, Lionel.
Bon, c'est un joli portrait. On va s'en sortir avec un gars qui sait pas défendre. Non.
Tu veux dire pas ce que j'ai dit, Lionel. J'ai pas dit que ça n'avait pas défendre. J'ai dit qu'il était beaucoup plus à l'aise avec le ballon vers l'avant.
Tu veux dire que vous aviez déjà ça en magasin, l'arrière gauche sait pas défendre?
Non, c'est pas ça. Je pense que Emerson, c'est intéressant parce que techniquement, ça doit être supérieur. Je pense que c'est supérieur à un Cornet ou à Enrique pour l'instant, qu'on a vu que bon dans le pas vraiment dans l'efficacité défensive. Donc le but du jeu, je pense, pour Boss, c'est d'avoir des bons techniciens. Ce qu'on voit sur le match de Brest et sur le match qu'on a perdu encore ce week-end contre Angers, c'est qu'on perd des ballons qu'on ne doit jamais perdre. Voilà, c'est que techniquement, l'équipe aujourd'hui, elle n'est pas au point, et surtout derrière. Et les erreurs qui sont faites au milieu de terrain ou sur les latéraux avec des passes loupées amènent un contre rapide des efficacités des attaquants adverses. Donc je pense que Buzz veut se rassurer avec des gens d'expérience, avec des gens qui sont capables de subir un pressing, qui sont capables techniquement de faire des passes. Oui. Et puis après, si en plus il est capable de faire des centres, enfin Dembélé va avoir un ballon à la surface, quoi.
T'aimais pas les centres de Cornet?
De Cornet, non. Dubois, j'aime bien, mais le problème, c'est qu'il tient pas que plus d'une mi-temps. Alors, c'est un peu compliqué, quoi.
Ouais. Oui, Julien.
Et techniquement, Emerson, c'est vrai que c'est très propre. C'est une technique brésilienne. Hein. Après, il a appris la tactique en Italie, mais pour l'art de la défense, c'était un peu plus compliqué, effectivement.
Ouais.
Lionel, merci d'être venu. Ouais, vas-y, rajoute un mot.
C'est exactement dans la stratégie de Boss, quoi. C'est d'avoir des bons techniciens. Le but du jeu, c'est de faire bouger le ballon très vite. Quand le ballon bouge très vite, à partir de ce moment-là, le pressing, ça sert à rien. Et donc, c'est comme ça qu'on maîtrise un match. Alors, je pense qu'il tient ça de Roland Courbis, certainement.
C'est sûr. C'est sûr.
En lui disant, de toute façon, le ballon a toujours couru plus vite que les joueurs. Donc, il faut faire bouger le ballon. Il faut arrêter avec les Cherki, les Aouar et la bande, là, qui se fait du tchitcha, là. Je fais des démonstrations de jongle. Non, il faut aller vite. Une touche de balle, du déplacement. Je touche, je bouge. Et il faut des bons techniciens pour ça. Donc je pense que Emerson, c'est une bonne pioche.
Eh ben, très bien, Lionel. Merci d'être venu. À bientôt.
Salut, de rien. Bonne soirée.
Salut, Lionel. Julien, je profite de ta présence. Donc ce qu'on a vu passer dans la presse anglaise, là, une dernière offre de 180 millions d'euros pour Harry Kane de la part de City. C'est crédible, c'est ce qui va se passer.
Hier, t'as vu, on était un petit peu radin. On disait que 160.
Oui. T'as raison, on était un peu moins généreux, on va dire, avec le coach. On me l'a pas confirmé encore. Cette info, effectivement, j'ai vu, qui est sortie dans une indépendante d'un journaliste qui est plutôt bien informé du côté de City. On savait qu'ils sont en train de préparer une offre, une dernière offre. On sait aussi qu'Harry Kane, qui devait voyager avec son équipe pour le match d'Europa Conference League contre Paços de Ferreira n'est finalement pas dans le groupe, qu'il est resté à Londres. Donc lui encore, son entourage a un peu briefé tout le monde, parce qu'il y a eu encore quelques articles ce matin aussi en disant qu'il voulait vraiment encore partir, qu'il y avait vraiment encore cet accord tacite qui avait été passé entre lui et Daniel Levy, entre son frère qui est son agent aussi et Daniel Levy, qui n'était pas respecté du côté du président de Tottenham. Donc voilà, je pense qu'il faudra encore attendre un petit peu, mais c'est vrai, ce sera encore une saga pour quelques jours, voire même les deux semaines qui restent jusqu'à la fin du marché de transfert.
Et s'il part, Tottenham, ils font quoi ? Il y a déjà des noms, il y a déjà des remplaçants potentiels.
Oui, alors il y a des noms, c'est sûr que je pense qu'ils ont, enfin c'est pas je pense, ils ont raté Lautaro Martinez de l'Inter. À un moment, c'est sûr que les soldes à l'Inter, ça allait s'arrêter. Donc après Hakimi et Lukaku, ils n'allaient pas en plus perdre Lautaro Martinez. Il y a Vlahovic de la Fiorentina, mais le problème, c'est qu'ils sont pas seuls dessus non plus. Il y a d'autres pistes défensivement aussi. Un Pau Torres par exemple, c'est un joueur qu'ils aiment beaucoup, mais lui veut jouer la Ligue des Champions à Villa, avec ce qu'il va faire d'ailleurs avec Villarreal, et il est aussi très convoité, donc c'est un peu compliqué. Donc tu sens qu'ils sont en train de se positionner aussi avec l'argent d'Harry Kane, avec l'argent qui va rentrer dans les caisses via le transfert d'Harry Kane. Seulement c'est pas facile non plus de préparer des transferts quand t'as pas encore l'argent qui est là non plus, et t'es même pas sûr si cet argent-là va arriver.
Ouais. On a entendu parler de nos deux Français, là, Thuram et Pléa.
Aussi, ouais, effectivement, Thuram et Pléa. Un joueur comme Moussa Mawar, par exemple, je pense leur plaît bien, mais c'est pareil. C'est aussi un poste où ils ont aussi ils ont déjà des joueurs, où ils sont peut-être pas les seuls non plus à suivre Aouar. Donc c'est un peu compliqué pour eux en ce moment.
Et côté départ, j'ai vu donc Ndombele pourrait partir, Sissoko aussi.
Alors Ndombele, c'est très compliqué parce que je pense qu'il y a eu un problème avec Nuno, il a pas joué du tout pendant la préparation, il est même pas dans le groupe, il reste chez lui. C'est très compliqué. Sissoko par exemple était au moins sur le banc contre City, il est pas entré en jeu, il a pas non plus, il fait pas trop partie visiblement des plans de Nuno, donc c'est un peu compliqué. Serge Aurier aussi, à qui il reste qu'un an de contrat, que le club aimerait aussi bien voir partir parce qu'il ne compte pas sur lui cette saison. Donc il y a pas mal aussi de joueurs à faire partir, mais tu as l'impression pour l'instant qu'ils sont tellement obnubilés par le cas Kane, ce qui est normal, c'est leur meilleur joueur, c'est leur vice-capitaine. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres dossiers à régler d'ici à la fin du marché de transfert.
Cette première victoire et ce premier match, justement, qui se gagne contre Manchester City sans Kane, ça change quand même aussi la vision des choses.
C'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, à la fin du match, les supporters, tout le stade, hein, les 60 000 personnes, enfin moins les 3 000 supporters de City, chantaient « Are you watching ? Are you watching ? Est-ce que tu regardes, Harry Kane ? Est-ce que tu regardes ?» Parce que c'est vrai, c'est vrai que sans lui, avec Son dans l'axe, et tout tournait autour de Son, tout le monde jouait pour Son. C'est vrai que ça faisait une différence. Et si tu peux battre un City, même un City un petit peu diminué, qui est encore dans sa préparation, qui est pas tout à fait prêt, c'est vrai que c'est très intéressant pour Nuno. Ils ont été très disciplinés, et oui, peut-être que tu peux te dire, vaut-il mieux pas récupérer 150 millions et les réinvestir de manière intelligente en renforçant les postes clés dans cet effectif-là et partir comme ça pour la saison sans Kane.
En tout cas, c'est extraordinaire pour Nuno. Tu l'appelles Nuno, c'est ça?
Nuno, c'est plus simple que Nuno Espirito Santo.
Voilà, mais bon, le Nuno, tu t'imagines, premier match avec sa nouvelle équipe, il bat Manchester City et en plus, il joue sans Kane. Eh ben, on parle de débuts réussis, il y a des débuts ratés, mais celui-là, il est drôlement réussi.
C'est ça.
C'est vrai.
Julien, merci.
Merci.
Bonne fin d'émission. Salut. Quelle activité, Julien. Il est au top. Là, on sort l'info il y a une heure avec Edouard. Et là, il nous explique tout sur Emerson Palmieri. C'est magnifique. Salut, Julien. Bonne soirée.
Ciao, les gars.
Dans un instant, Paulo Breitner pour revenir sur la finale de la Supercoupe d'Allemagne entre le Bayern et Dortmund, que le Bayern a remporté. Et il y a un match en retard de Ligue 2. Bastia mène 2-0 désormais sur le terrain de Quevilly-Rouen. Un but de Chour, un très joli but.
Ça, c'est une surprise parce que le calendrier que vient de se taper Bastia, gagner à Quevilly, qui n'est pas facile du tout et qui est une bonne équipe, là, un bon promu, sincèrement, un chapeau.
Il reste 22 minutes dans cette rencontre et donc pour l'instant, Bastia mène 2-0 sur le terrain de Quevilly-Rouen. Dans une seconde, donc l'Allemagne avec Paulo Breitner. À tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
20h30 sur RMC, c'est le RMC Football Show avec Coach Courbis jusqu'à 21h. Plein d'infos mercato encore à vous donner et le projet de réforme de la Ligue des Champions qui pourrait évoluer de nouveau. Visiblement, les clubs historiques devraient de nouveau se plaindre. Je vais vous raconter tout ça dans un instant, mais d'abord place à l'Allemagne. Paulo Breitner nous rejoint, notre spécialiste du foot allemand. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Jean-Louis, bonsoir mon cher Roland, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo.
Alors Polo, donc ce Dortmund Bayern hier, affiche magnifique pour la finale de la Super
Coupe. On a revu ce Bayern.
Ouais, Bayern qui a gagné 3-1.
Ouais.
Juste avant, pardon, mais pourquoi c'est avec lui à Dortmund?
Parce que en général, c'est le vainqueur de la coupe qui reçoit, enfin, la coupe d'Allemagne qui reçoit. Et donc en général, et c'est marrant parce que ça se passe souvent en ce moment. Ou alors, et comme le Bayern souvent fait le doublé avec championnat coupe, et ben il retrouve souvent le deuxième. Mais ça se passe chez le deuxième, et le deuxième c'est souvent le Borussia Dortmund aussi. Et donc en fait, c'est un peu le duel de la dernière décennie, Dortmund contre le Bayern. Et ce qui est très intéressant quand même, c'est que au-delà de la qualité de la rencontre qui pourrait satisfaire n'importe quel supporter de football et qui aime le beau jeu, c'est que c'est quand même la sixième fois consécutivement que le Bayern bat Dortmund. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit complexe. Et quand on parle d'un Borussia Dortmund capable d'aller chercher le titre ou ce que tu veux, mais tu sens qu'ils sont quand même plus à la deuxième place qu'à la première.
Et d'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que tu dis, cette espèce de complexe d'infériorité de Dortmund, en fait, qui arrive pas à passer le cap, je pense que c'est au moment du troisième but du Bayern que ça se matérialise le plus. C'est-à-dire que Dortmund réduit l'écart. Ils peuvent peut-être revenir dans le match et tout. Ils font cette erreur incroyable.
Ah ben, cette erreur, c'est surtout Akanji qui les accumule quand même depuis quelques années, même s'il a fait un très bel euro avec l'équipe de Suisse. C'est bien que tu parles de la défense parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que les deux équipes qu'on a vues hier soir ne sont pas à 100% encore. Et sur les 8 joueurs qui jouaient en défense, donc les deux lignes de 4, il n'y en avait que 3 qui seraient théoriquement titulaires pendant la saison. Donc tu vois, il manque quand même du monde. On a bien vu hier soir que Paslak sur le côté droit, au poste d'arrière droit, c'est peut-être un joueur de seconde division allemande, ou tout du moins un remplaçant au grand maximum au Borussia Dortmund.
Les 3, c'est qui? C'est Davies pour le Bayern.
Alors c'est Davies évidemment.
Akanji à Dortmund.
Ouais, c'est Akanji. Et tu as Upamecano théoriquement en défense centrale. Ouais. Allez. Par contre, quand j'ai dit 3, mais peut-être 4, parce que hier, il y a un défenseur bavarois qui a fait une très très grosse performance en tenant un certain Norvégien Hollande en respect. C'est Zule qui a fait, justement, a gagné 9 de ses 12 duels avec le Norvégien et qui se présente quand même comme un sacré titulaire en puissance, à tel point qu'on parle de lui pour une possible prolongation, alors qu'il a plus qu'un an de contrat, et on avait plutôt tendance côté bavarois à lui indiquer la porte parce qu'il passait pas le cap de ce super défenseur. Donc tout ça est très intéressant. Ce que tu as vu hier soir, déjà on a vu une superbe rencontre, ça fait du bien de voir 25 000 personnes. On a
juste
vu
le duel quand même, Zule Haaland, il y a ça du va. Muscle, hein. Il y a du kilo là, c'est costaud quoi.
1m94 d'un côté, 1m95 de l'autre.
Ça on voit.
Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu aussi les duels entre Manuel Neuer et Hollande, c'était aussi pas mal. Ouais. Mais au-delà de ça, si tu veux, hier soir on a vu une très belle rencontre avec deux équipes qui ne sont pas à 100%, ça c'est très clair. On a vu un Borussia Dortmund étincelant dans la volonté de jouer, mais justement le système de Marco Rose, le nouveau coach qui est arrivé de Mönchengladbach, le 4-3-1-2 qu'on espérait vraiment voir avec ce milieu de terrain que personnellement je trouve extraordinaire, c'est-à-dire Daoud, Reina et Bellingham, très jeune mais très joueur, n'est pas encore prêt. Il y a encore du travail pour que tout ça fonctionne et trouver un équilibre, parce qu'on a bien vu que les Bavarois aient compris qu'il y avait un problème sur le côté droit du Borussia Dortmund, donc le côté Paslak notamment. Ils ont beaucoup travaillé dessus, d'ailleurs c'est par là qu'arrive le super centre de Gnabry pour Lewandowski. Et la grande leçon aussi d'hier soir, c'est que on parle beaucoup du prodige norvégien, mais c'est le vieux Lewandowski qui marque des points à chaque fois qu'il se rencontre. Ouais. Et ça, c'est quand même un truc. Il a encore marqué un doublé hier, il fait la passe décisive pour le 2-1, et exactement pour Thomas Müller. Et tout ça quand même fait que tu sens que le Bayern, qu'on critique beaucoup en ce moment, parce qu'il n'y a pas de vrai recrue, à part Upamecano, etc., qui n'est pas à 100%, que la préparation, c'est pas bien faite. Je voudrais juste dire ça quand on dit.
Attends, excuse-moi, je te coupe, mais tu dis on les critique beaucoup parce qu'on critique souvent beaucoup le Bayern, ou là, c'est plus que d'habitude?
Alors, c'est plus que d'habitude déjà, parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui est très jeune, et en gros, on lui est en train de lui faire passer un petit bizutage, on va dire ça comme ça, qu'on n'a pas accepté le fait de faire un match nul à Mönchengladbach, qui était quand même 8e de finaliste de la dernière Ligue des Champions et qui a la même équipe que l'année dernière. Et depuis une dizaine d'années, Mönchengladbach pose beaucoup de problèmes au Bayern. Et on oublie que dans la préparation d'avant-saison, il n'y a que 2 joueurs sur les 11 alignés hier qui ont fait une préparation complète. C'est un truc qu'on oublie complètement dans les analyses, je trouve. Donc ce Bayern n'est pas prêt, mais il est là. C'est-à-dire qu'offensivement, ça va. Défensivement, il y a eu du mieux par rapport à la prestation à Mönchengladbach. Et ceux qui disent c'est peut-être une équipe qui n'est pas si bonne que ça, etc., je pense qu'ils vont peut-être manger leur chapeau quand on va les voir en Ligue des Champions.
Ouais, ouais. Et alors nos Français, donc Upamecano, ça c'est plutôt bien passé.
Ça s'est mieux passé. Ça s'est mieux passé quand même que contre Mönchengladbach. Où, rappelons-le, il a été notable. Il a été. Alors le problème, si tu veux, c'est qu'on sent qu'il veut dépasser ses fonctions systématiquement. Il veut prouver qu'il est le titulaire en défense centrale et qu'il va devenir le patron de la défense centrale. Sauf qu'il est plus à la Leipzig. Là, il est au Bayern. Il peut plus se permettre de faire des erreurs entre guillemets de gamin. Ça s'est très mal passé dans la dernière demi-heure lorsque Thuram est rentré. Il a été dominé de la tête et des épaules. Thuram lui a fait très mal. Il aurait dû y avoir de pénalty, évidemment, pour une victoire possible ou du Borussia Mönchengladbach. L'arbitre n'a pas sifflé. Bon, ok. Et là, ça s'est mieux passé avec Süle à côté. Et je rappelle quand même une chose que je disais dans l'after hier soir, c'est que ça a l'air de rien, mais Nagelsmann, il a fait deux postes à Hoffenheim et à Leipzig. Et il y a deux défenseurs centraux. C'est Süle qui a explosé à Hoffenheim sous les ordres de Nagelsmann. Et Upamecano, évidemment, qui connaît très bien Nagelsmann à Leipzig. Donc, un Français comme Hernandez, alors qu'on l'annonce comme titulaire, alors que ça fait deux ans quand même qu'il fait banquette lorsqu'il n'est pas blessé, je pense qu'il va vraiment devoir travailler. Le seul problème de cette défense-là, c'est que Nagelsmann étant très très offensif, tu vois que le bloc équipe bavarois se retrouve souvent à 40-50 mètres de Manuel Neuer, et honnêtement, Süle et Upamecano, faut qu'ils se retournent, faut qu'ils reviennent, c'est pas évident. Donc s'ils se prennent des ballons dans le dos, ça va risque quand même d'être compliqué.
Ouais, c'était le cas l'année dernière aussi quand même.
Upamecano va très très vite. Hein.
Et Süle aussi. Va très vite.
Alors, oui, mais c'est. Faut les lancer. Le problème, faut les lancer. Ouais. C'est toujours pareil. C'est comme Boateng. On dit, il est lent. Mais Boateng, une fois qu'il est lancé, ça va, quoi. Sur 20 mètres, il peut te rattraper beaucoup de personnes. Ouais. Mais si le gars est bien parti, c'est difficile à se retourner et à revenir. Mais bon, en tout cas, moi, je suis très optimiste sur ce que j'ai vu hier soir, sur la prestation des deux équipes. Encore une fois, c'est pas à 100%, mais il y a des choses, quand même, qu'on a vues, qui sont vraiment intéressantes.
Et tu nous disais, donc, Haaland, à nouveau, c'est Lewandowski qui marque et pas Haaland. Lui aussi, contre le Bayern, il a du mal à exister contre des joueurs qui le serrent de près.
Alors, il y a une petite anecdote qui aujourd'hui se balade sur les réseaux sociaux. C'est, je sais plus comment s'appelle, c'est ce dessin animé que j'adorais, là, la famille. J'ai oublié le nom.
Les Pirafeux ?
Non, pas les Pirafeux, non, américaine.
La famille Adams. Notre belle famille.
Non, toi, lui qui parle comme ça, là, un peu, là. Tu sais, qui est toujours en train d'aller boire une bière chez son pote, là.
Les Simpsons?
Les Simpsons, c'est ça. Et en fait, on voit sur les réseaux sociaux, c'est Alf, je crois qu'il s'appelle comment, je sais plus comment il s'appelle.
C'est Homer Simpson,
Homer, voilà.
Alf, c'était un autre dessin animé.
Et en fait, on voit Homer, excuse-moi, mais je regarde plus beaucoup les choses comme ça.
Homer, si tu veux.
Ouais, à peu près. Ouais, il y a Homer, en fait, tu le vois complètement disparaître à chaque fois qu'il y a Lewandowski en face de lui. En fait, Homer, c'est Erling Haaland, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que Haaland doit prouver qu'il est capable de maîtriser le Bayern. Et jusqu'à maintenant, il ne l'a pas fait. Maintenant, il n'a que 21 ans. Mais tu vois sa volonté de réussir hier. Mais ça ne s'est pas joué à grand-chose hier. Il y a un duel fabuleux en début de rencontre entre Marco Reus et Manuel Neuer. Neuer qui gagne son duel. Il y a eu deux buts pour hors-jeu, mais de quelques centimètres qui ont été refusés à Dortmund. Tu l'as dit, il y a Marco Reus qui marque un superbe but pour revenir à 2-1. On se dit que ça va peut-être tourner là. Et il y a cette erreur catastrophique d'Akanji. Donc c'est... Voilà, on va dire que le Bayern est encore devant. Hein. Certains parlent de match de démonstration. Moi, je parle plus de victoire clinique, tu vois. C'est-à-dire qu'il fallait marquer, le Bayern était là. Et Dortmund n'est pas encore là, mais au niveau du spectacle, on se régale.
Sinon, il y a une autre option. Si Haaland n'arrive pas à marquer contre le Bayern, c'est qu'il signe au Bayern. Comme ça, t'as plus ce problème, tu vois.
Alors,
Lewandowski, par exemple, il était à Dortmund avant. En finale de Ligue des Champions 2013, il marque pas, par exemple. Et après, il est parti au Bayern. Du coup, pas de problème.
Mais je te signale qu'on parle beaucoup du Norvégien en 2022 au Bayern Munich. C'est-à-dire que le Bayern, via Salihamidžić, le directeur sportif, s'est officiellement positionné sur le dossier Haaland. On verra s'il le gagnera.
Le Bayern ferait un gros transfert avec Mino Raiola ? C'est pas trop dans les...
Moi j'ai cru comprendre que l'agent dont tu viens de citer, mais qu'on donne d'ailleurs beaucoup d'importance, je trouve, dans le clan norvégien, parce que c'est plus le père qui gère tout ça, en fait. On signale qu'en Italie, il est presque un petit peu grillé, on va dire ça comme ça, et qu'il s'intéresse beaucoup à l'Allemagne en ce moment, déjà, parce que ça a l'air de rien, mais les Allemands, ils payent à la fin du mois, quoi.
Ouais. Le PSG aussi, hein.
Oui, non, mais je dis pas qu'il y a que là, mais il y a d'autres pays où c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et voilà, on en est là, et je serais pas surpris, en fait, que le Norvégien, à la fin de la saison, finalement, avec cette fameuse clause de 60 millions d'euros seulement, mais qui peut augmenter en fonction par exemple.
Alors, j'ai vu qu'il voulait l'augmenter. enfin, j'ai vu ça, je sais pas si tu peux confirmer, mais qui voulait monter cette clause, même si elle est plus basse, évidemment, la saison prochaine, mais il voulait la monter à 90 millions.
Alors, c'est pas exactement ça, c'est qu'en fait, en fonction des résultats du Borussia Dortmund, on peut augmenter, la clause augmente, en fait. C'est-à-dire, imagine que pour une raison XY, que le Borussia Dortmund gagne la Ligue des Champions, ben, la clause augmente.
Ouais, d'accord.
Naturellement, c'est un truc comme ça. Bon, tu sais, mais à ce niveau-là, il y a pas mal de. Je sais pas, enfin, ils arrivent toujours à trouver des trucs pour.
Tu le verrais bien au Bayern, à Londres, coach?
Pardon.
Non, toi, oui, mais. Je le vois tout droit au Paris Saint-Germain.
Ah. Ah oui?
Bah oui.
Mais l'été prochain?
Bah oui.
Donc, à la place d'Mbappé?
Il y a la clause. Avec ou à la place?
Donc, Neymar, Messi, Mbappé à Londres.
Ouais.
Ça a de la gueule, ces quatre-là. Ça fait beaucoup, peut-être, non?
Pourquoi?
Bah, comment t'as sur...
Tu peux de temps en temps me faire reposer.
Hein, ah ouais, c'est vrai. Ah là, c'est pas mal. Hein. Ah là, je te raconte pas en Allemagne, là, comment ils seraient crispés sur les dépenses du PSG. Là, on aurait Polo et c'est le son d'économie, non?
Bah, c'est sûr que le PSG, question économie, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est pas grave.
Bon, en tout cas, pour l'instant, donc, il est toujours à Dortmund. Il fait la saison à Dortmund. Hein. Il ne peut pas y avoir un revirement de situation dans les derniers jours, là.
Mais si, t'as le droit de gagner au loto et devenir milliardaire, mon cher Jean-Louis, et de proposer une somme déraisonnable, comme on dit. Et là, le Borussia Dortmund le laissera partir. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Moi, j'attends avec impatience la fin août, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer avec les clubs anglais, évidemment, qui ont beaucoup d'argent, même si c'est évidemment, eux aussi ont déjà bien avancé dans leur mercato. Mais j'ai du mal à croire qu'ils puissent partir maintenant. Maintenant, tu sais, tu débarques avec 150 millions, vu la situation financière du Borussia Dortmund qui a perdu plus de 40 millions d'euros. Vasco l'a très bien dit. J'ai vendu Sancho. Il n'y a presque pas eu d'investissement parce que seulement Malen est arrivé. Mais voilà. Enfin, c'est aujourd'hui, si tu veux, si tu fais une offre considérée comme déraisonnable, ben
il pourrait partir.
Ouais.
Mais effectivement, il n'y a plus beaucoup de clubs capables de faire des offres déraisonnables. Et juste pour l'autre, tu disais, il y a des critiques parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées au Bayern. Ça peut bouger dans les jours qui viennent ou pas? Ou alors, c'est fini?
Non. On parle de plus en plus de l'arrivée de Sabitzer, l'international autrichien de Leipzig, comme par hasard, et qu'il aurait. Je dis bien, il aurait décidé et annoncé qu'il voulait.
Pour les meilleurs de Leipzig, Nagelsmann.
Bah, c'est un peu ce qu'il fait, quoi, tu vois. Et puis, c'est aussi le grand classique au Bayern Munich d'affaiblir la concurrence. Ouais. Alors, ce ne serait pas.
C'est des joueurs qu'il connaît aussi mieux que personne.
Oui. Ce serait pas idiot du côté de Leipzig de lâcher Sabitzer parce qu'il y a quand même Szoboszlai qui est arrivé et donc il y a une énorme concurrence. On en avait parlé un petit peu, Jean-Louis. Il y a aujourd'hui 20-25 joueurs qui sont capables d'être titulaires à Leipzig. Donc, un départ ne me surprendrait pas. Par contre, pour trouver une place de titulaire à Sabitzer au Bayern, c'est un choix de carrière, on va dire ça comme ça.
Bah ouais.
Parce que Goretzka, Kimmich, pour les bouger, c'est compliqué. T'as Müller.
Un peu plus haut, il peut aussi, ouais.
Bah ouais, mais t'as Müller qui est là, t'as Gnabry, Kingsley Coman, et Leroy Sané qui sont là sur les ailes. Faut lui trouver. Soit on change de
schéma. Remplaçant Müller, je pense.
Ouais,
Premier remplaçant des trois postes, quoi. Du milieu ou Müller.
Ou un joker de luxe, mais ça reste un joker. Moi, c'est ce qui me... C'est pas que ça me perturbe pour le cas Sabitzer, il fait ce qu'il veut.
Mais pas de dormir, quoi.
Non.
Bon, très bien. Merci, Polo.
Merci à vous, les gars.
Bonne soirée. Salut, et à très vite pour reparler du foot allemand. Le match de Ligue 2 dont je vous parle depuis tout à l'heure est plein de rebondissements puisqu'il y a 2-1 désormais pour Bastia sur le terrain de Quevilly-Rouen. Il reste 5 minutes dans cette rencontre. Dans un instant, les dernières infos mercato, plusieurs choses à l'étranger. Le Barça s'avancerait sur un grand nom européen en attaque. Je vous raconte ça dans un instant. Et puis, la réforme de la Ligue des Champions. Il y a peut-être des nouveautés encore à ajouter. C'est le RMC Foot. Football Show jusqu'à 21h sur RMC, à tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
20h45, c'est le RMC Football Show avec Coach Courbis jusqu'à 21h. Dans la foulée, l'after sera là jusqu'à minuit, comme tous les soirs, évidemment sur RMC. Alors le RMC Football Show vous accompagne tous les soirs cette semaine, entre 18h et 21h. Et je vous rappelle le nouveau rendez-vous à partir de lundi, Roten sans flamme, tous les soirs de 18h à 20h, Jérôme Roten sera là pour analyser l'actu, pour débattre avec passion avec l'ensemble de la Dream Team et pour accueillir les plus grands acteurs du foot. Ce sera le cas donc tout au long de la saison. Rendez-vous lundi pour la première avec plein de surprises. Ce sera donc entre 18h et 20h sur RMC. Roten sans flamme. Et puis, je vous parle depuis le 18h d'un super cadeau. On vous offre vos places pour l'affiche de Ligue 1 du week-end entre Nice et Marseille. Ça se passe dimanche à 20h45. Vous avez peut-être tenté votre chance, vous avez peut-être appelé le 32-16. Et si vous n'avez pas été retenu, eh bien, il y aura encore une possibilité de gagner demain. Donc allez-y, vous pouvez encore appeler le 32-16 ou retenter votre chance demain. Coach, quelques infos transferts encore qu'on n'a pas données.
Allez.
Donc, concernant certains Français, donc on a parlé de Kurt Zouma hier déjà avec Julien Laurence, qui ne devrait pas a priori rester à Chelsea. Visiblement, donc West Ham est très intéressé. C'est l'info qui a circulé donc en plus donc aujourd'hui.
Et Chelsea le remplacerait par Koundé.
C'est ce que nous disait Julien. Ouais, effectivement, Koundé qui aurait la cote s'ils arrivent à vendre Kurt Zouma, ce serait lui donc le remplaçant. Voilà, Zouma qui a quand même une très belle cote toujours en Angleterre, donc qui pourrait rebondir. Et pour Koundé, ce serait bien de passer à Chelsea. Là aussi, c'est une étape supplémentaire pour lui.
Ah ben Chelsea, en ce moment, ça fait partie des 4 voire 5 équipes les plus fortes.
Ah ouais, exactement. Donc voilà pour Zouma et son sort et le sort de Koundé qui est lié à lui. Michy Batshuayi, l'ancien attaquant de l'OM, ne va toujours pas jouer à Chelsea. Il a été prêté à plusieurs reprises. Là, il devrait aller à Beşiktaş. Ça a été officialisé donc ce mercredi. On lui souhaite plein de réussite. Karim Benzema aurait un accord pour une prolongation de contrat. 33 ans, Benzema, mais il est en contrat seulement jusqu'en juin 2022. Et donc, il pourrait prolonger d'une saison supplémentaire. Alors, c'est souvent comme ça, hein, au Real, avec les trentenaires, on prolonge d'une saison en une saison. C'est ce qui, d'ailleurs, avait provoqué le souci avec Sergio Ramos.
Ça lui ferait 2 ans de contrat.
Oui, c'est ça, cette saison et la suivante. Voilà, lui qui, peut-être cette saison, a un tapis rouge pour remporter le titre de meilleur buteur du championnat d'Espagne, puisqu'il n'y a plus Messi, il n'y a plus Ronaldo, donc voilà, c'est peut-être sa saison pour y arriver, il ne l'a pas fait encore.
C'est vrai que c'est fort possible.
Et comme il est chaque fois meilleur que la saison précédente, Benzema, voilà. C'est incroyable d'ailleurs.
Il progresse, on dit on progresse à tout âge, mais lui, il le démontre qu'on progresse à tout âge.
Ah ouais, non, franchement, c'est incroyable. Alors que j'ai une vision, Simone Rovera qui arrive dans le studio pour nous dire bonjour, puisqu'il doit être dans l'after, sans doute à partir de 21h, lui qui a fait son retour dans l'after. Voilà, vous le retrouverez tout à l'heure avec Gilbert Bribois, Daniel Riolo et toute l'équipe. Le grand nom sur lequel le Barça avancerait, alors c'est selon Sport, le quotidien catalan, le Barça avancerait sur Pierre-Emerick Aubameyang. Il y aurait une discussion avec Arsenal pour faire venir l'attaquant gabonais. Alors,
il y a quelques années déjà, il y a eu quelques contacts avec le Barça.
Ouais.
Si je me rappelle bien.
Alors c'était le Real, non? En tout cas, je me souviens Aubameyang Real, ouais, mais peut-être le Barça aussi, effectivement. Alors, l'opération paraît un peu compliquée à mener à bien, mais donc puisque ce serait lié à un échange avec Coutinho, ce qui est compliqué, c'est que visiblement Coutinho voudrait rester plutôt au Barça plutôt que d'être dans cet échange. D'ailleurs, on parle même du numéro 10 laissé vacant par Messi pour Coutinho. Donc voilà.
Dans tous les mouvements qu'il y a pu y avoir, un truc qu'on n'a pas parlé, enfin un petit peu, mais pour moi pas assez, c'est Agüero. Agüero qui va au Barça pour justement rejoindre Messi. Et c'est là justement qu'on s'aperçoit que si le Barça à cette époque-là prend Agüero, c'est parce qu'ils ne sont pas encore complètement sûr de perdre Messi.
Oui, à ce moment-là, ils pensent qu'il va rester.
Oui, sinon, ils ne prennent pas Agüero.
Oui.
Donc, c'est quand même bizarre ce qui s'est passé.
T'as raison. Et sur un échange Aubameyang-Coutinho, qui est gagnant?
Celui qui prend Aubameyang.
Ouais, 32 ans, hein, Aubameyang.
Oui, ça fait rien.
Ça change rien.
Coutinho, il est jeune, mais par contre, il est toujours à l'infirmerie.
Bon, il est jeune, il a 29 ans. Coutinho. Mais ouais. Effectivement, oui, il est tout le temps à l'infirmerie. Et puis concernant le Barça, alors c'est que c'est assez tendu avec Samuel Umtiti, puisque le Barça essaie de le mettre dehors. Il y a des histoires d'ultimatum qui sont relayées dans les médias catalans régulièrement. Et visiblement, ça y est, Umtiti serait ouvert à un départ ces dernières heures. Il y a plusieurs possibilités, notamment de prêt pour lui. Mais voilà, il serait en train d'accepter l'idée de quitter le Barça. Et l'incertitude sur Umtiti, c'est son état physique.
Et évidemment, oui, évidemment. Et à la limite, le Barça paierait la partie du salaire que le club où il sera prêté ne payait pas.
Sans doute,
oui. Ah, ben oui, ben c'est, y a pire.
Oui, t'as raison. Ça y est, c'est terminé dans mon match de Ligue 2. Bastia s'est donc imposé 2-1 sur le terrain de Quevilly-Rouen. Voilà, bravo aux Bastiais donc qui remportent leur première victoire de la saison en Ligue 2 lors de ce succès donc 2-1 à Quevilly-Rouen.
Ils font quand même un sacré parcours avec le Covid qui les a perturbés et malgré ce, ils s'accrochent, ils jouent tous les 3 jours et ils sont difficiles à battre et là ils sont même capables d'aller gagner à Quevilly. On les salue.
Des infos hors mercato pour terminer. Alors Balerdi le verdict est tombé pour Balerdi donc qui a été expulsé contre Bordeaux. Donc il écope de 2 matchs de suspension par la commission de discipline parce qu'il y a ce mauvais geste face à Sekou Mara dans les dernières minutes. Donc voilà, 2 matchs pour Balerdi.
2 matchs fermes.
Deux matchs fermes, ouais. Ouais, je regardais ça en détail, mais il me semble, oui, c'est ça, 2 matchs fermes. Et 1 match seulement pour Maxwell Cornet, qui lui aussi a été expulsé.
Ouais, voilà. Ça, c'est difficile de pouvoir comparer, puisqu'on connaît pas le casier de l'un de l'autre.
Mais oui, c'est ça. Un pour Djikou également, avec Strasbourg. Voilà.
1-1. C'est ça?
Écoute, oui. Oui.
Bah, écoute, déjà de l'expulser, c'est sévère. Malgré plus qu'il prenne 2 matchs.
Oui, t'as raison. Autre info. Alors, je sais pas si t'as vu ça, mais premier but donc pour Florian Thauvin avec les Tigresses de Monterrey au Mexique. Lui qui avait connu un début cataclysmique puisqu'il s'est fait expulser pour son premier match pour un mauvais geste. Là, il est de retour. Il était remplaçant. Donc 5 minutes après son entrée en jeu, il met un joli but du pied droit. Et une frappe décroisée dans la lucarne.
Ça va lui faire du bien. Et en plus, il ne jouait pas que Gignac, qui a, je crois, une fissure un peu ronée.
Oui, exactement. Il n'a pas repris la compétition encore, André-Pierre Gignac. Donc voilà pour Thauvin. Et puis, donc, parce que je pensais à Messi, allez voir, et ça pourra t'intéresser, coach, sur rmcsport.fr. Il y a tout un article qui explique, avec des témoignages à l'appui, pourquoi Lionel Messi ne joue quasiment pas les 5 premières minutes des matchs. C'est-à-dire que tu verras, si tu regardes en détail, c'est pendant les 5 premières minutes, alors bon, il y aura peut-être un ou deux contre-exemples à sortir, mais la plupart du temps, sur les 5 premières minutes, il ne fait rien. Il marche, comme s'il était ailleurs. Et visiblement, dans tous les témoignages, même Guardiola en parle, il analyse. Il prend 5 minutes pour analyser le positionnement de chacun, se faire une idée de la défense, où va être tel adversaire, etc. Et après, il rentre vraiment dans son match. T'avais déjà entendu un truc comme ça?
Non. Mais en plus de ça, c'est pas seulement que j'avais pas entendu, je m'en étais pas aperçu du tout.
Ouais, bah écoute, voilà. Il y a tout un article détaillé, donc sur rmcsport.fr. Et puis la réforme de la Ligue des Champions. Donc, selon le Times, il pourrait y avoir donc de nouvelles modifications par rapport à la réforme de la Ligue des Champions. Alors, tu te souviens des différentes polémiques. Alors, il y a eu la Super League. Pour contrer la Super League, il y a eu cette fameuse formule de la Ligue des Champions. Et visiblement, il pourrait y avoir rétro-pédalage sur l'un des éléments importants. C'était ce qu'on appelle la qualification par performance historique. Sous-entendu, une qualification accordée à certains clubs historiques, quel que soit leur résultat en championnat, eh bien ce critère-là pourrait sauter. Donc ça devrait pas plaire aux grands clubs, mais l'UEFA pourrait revoir ses plans sur ce domaine-là. En fait, c'était 2 tickets qui auraient été donnés à des clubs qui n'auraient pas pu se qualifier grâce à son championnat au titre de club historique. Vous venez en Ligue des Champions. Ça, c'est bien pour l'équité sportive.
Ouais, écoute, on verra ça.
Oui, c'est vrai, on n'y est pas encore, effectivement. Autre modification qui pourrait avoir lieu, ça concerne alors tu sais, la fameuse finale à 4, ça avait plutôt bien marché à Lisbonne au moment du Covid. Et ben, visiblement, ce serait la tendance d'arrêter les matchs aller-retour pour les demi-finales et de faire une finale à 4. Donc, match sec en demi-finale, match sec en finale. Moi, je trouve ça t'avait plu ou
pas? Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout ça.
Ouais. Bon, après les demi-finales en aller-retour, c'était pas mal aussi pour la dramaturgie, hein. Mais
ouais. Voilà. Ben oui.
De toute façon, maintenant ils existent plus ces allers-retours avec plein de dramaturgie. Là, il y a plus le but à l'extérieur.
Ben oui. Voilà.
C'est nul quand même. Hein. Bon, voilà donc pour les infos du jour. Vous avez tout ça bien sûr sur rmcsport.fr. 20h56, l'after arrive tout de suite avec Gilbert Brivois. Salut Gilbert.
Salut à tous.
Salut Gilbert. J'ai vu passer Simone Rovera, ça m'a fait tout bizarre.
Ah bah il est là, il est en train de travailler ses dossiers.
Il a plein d'infos mercato.
Ah bah il s'est devenu un spécialiste du mercato.
Ah, j'en doute pas.
C'est un truc de dingue. Il est tous les clubs. Hein.
Ah, il est fort.
Là tu lui dis, tu lui dis Kevin, comme dirait Roland. Hop, il va te sortir 2-3 joueurs.
Ça. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. Alors, vous avez quoi au programme?
Dossier Lyon, dans quelques instants avec Edouard. On va décrypter tout ce qui se passe en coulisses à l'OL. On va parler de Rennes aux yeux du Screm. Et mine de rien, petite frénésie d'achat quand même à Rennes. Deuxième plus gros investisseur de la saison après le PSG. Et puis, un grand débat après 22h tout à l'heure. Un pays peut-il détenir un club? Le PSG et le Qatar sont rattrapés aujourd'hui par des affaires géopolitiques liées à l'Afghanistan. La une de Charlie Hebdo notamment fait polémique. On en discutera tout à l'heure. Supporters parisiens, comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que tout ça est gênant ou bien pas du tout au fond? Votre avis bien sûr nous intéresse, et supporters des autres clubs également, sachant que l'argent qatari a tout de même ruisselé sur l'ensemble des clubs français ces dernières années via les droits télé notamment. Donc on en débattra longuement. Et puis à 23h comme convenu, spécial Geert Müller avec Paulo Breitner et Sheriff Gebur. On refera la carrière de Geert Müller, le plus grand attaquant allemand de tous les temps selon les spécialistes.
Et ben parfait, l'after arrive jusqu'à minuit donc. Demain, le RMC Football Show sans coach Courbis qui va se reposer pendant 2 jours. Lionel Charbonnier sera là. Et puis je vous rappelle qu'on aura encore des places à vous offrir pour Nice-Marseille, l'affiche de ce week-end dimanche à 20h45. Donc soyez bien là. Demain 18h, tout de suite l'after. Ciao.